La paternité aujourd'hui, être père en 2022, peut-on encore parler de paternité aujourd'hui? Depuis cette notion ancienne de pater familias, qui était détenteur d'un pouvoir et de l'autorité paternelle, au modèle actuel de nouveau père, cette paternité a connu de nombreuses évolutions, elle a dû s'adapter et elle se cherche encore dans une société où beaucoup de choses sont remises en cause. Pas facile donc de définir cette paternité. Mais cette paternité a évolué au fil de l'histoire. Alors si on remonte très loin à la préhistoire, les hommes, les pères, étaient des nomades, des chasseurs, des cueilleurs, avec pour seul rôle de subvenir à l'alimentation du feu. Mais ils étaient présents au foyer. Il n'y avait pas cette notion de propriété privée, pas de problématique d'héritage et de transmission, et le clan tout entier s'occupait de l'éducation des enfants. Un peu plus tard, à l'ère néolithique, avec la sédentarisation, la société se hiérarchise et la nature commence à être domestiquée. La notion de propriété des terres et des bêtes se développe et le mot patrimoine apparaît. Patrimonium qui signifie d'ailleurs héritage du père. Avec aussi cette naissance du besoin de transmettre ces biens qu'on avait acquis, mais les transmettre à qui? Un peu plus tard dans l'Antiquité, nous pouvons évoquer cette notion de pater deus. Les sociétés se hiérarchisent à l'extrême et la transmission des biens et des pouvoirs passe exclusivement par le père, qui dans la Rome antique d'ailleurs avait tout pouvoir sur la famille, jusqu'à d'ailleurs décider qui en faisait partie ou non. Cette famille au sens domestique, et saint Paul nous le dit, même les esclaves pouvaient faire partie de la famille. Au Moyen-Âge, nous trouvons plutôt une paternité à deux vitesses, le fils aîné et le reste. La Révolution française, c'est un peu la fin du patriarcat tout-puissant, du droit de déshériter ses enfants, du droit de favoriser les aînés par rapport aux suivants, des filles par rapport aux garçons, ou l'inverse. À la Révolution industrielle, les hommes commencent à quitter le village, la ferme, pour aller travailler à l'usine, avec cette dissociation entre le lieu du travail, sphère publique, qui est plutôt régie par les hommes, et puis le lieu de la maisonnée, sphère privée, sous la responsabilité des femmes. Et avec cette apparition d'une image d'un père forcément distant, autoritaire, et d'une mère plutôt présente et affectueuse. Et puis dans cette société post-industrielle, au début du XXe siècle, c'est le début de l'émancipation de la femme, et puis un père qui commence à se rechercher. Depuis les années 60, il y a une accélération de ces mutations sociales. Le modèle de la famille PME, papa, maman, enfant, a fortement été ébranlé par diverses choses, la divorce, les séparations qui augmentent, ces unions libres, le pax, naissance hors mariage, avec l'apparition de ces familles recomposées, cette monoparentalité, cette homoparentalité, même maintenant cette beau-parentalité, sont autant d'exemples des différentes formes que aujourd'hui peuvent prendre la famille et la parentalité. Et puis toutes ces mutations sociologiques se sont accompagnées depuis par de profondes évolutions législatives, notamment en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors j'en citerai quelques-unes. En 1945, dans la Constitution, c'est l'égalité parfaite et des droits entre les hommes et les femmes. Toujours en 1945, et ça a son importance, c'est la création de la sécurité sociale. En fait, c'est un peu une main extérieure qui arrive et qui prend désormais en charge les problèmes de santé, et notamment de vieillesse, qui étaient dévolus à la famille, au père et à la mère. En 1973, c'est le divorce par consentement mutuel. En 1974, l'autorisation de l'IVG. En 1999, le Pax. En 2013, le mariage pour tous. En 2021, la PMA pour toutes. En attendant, la GPA bientôt. Bref, toutes ces évolutions sociétales et législatives ont fortement contribué à modifier cette notion de paternité et surtout la place du père. Alors, qu'est-ce qu'être père aujourd'hui ? Alors je me réfère à une étude faite par l'Union régionale des associations familiales en 2015 et qui dit, pour être succinct, Qu'être père aujourd'hui, c'est un sondage fait par les pères d'ailleurs, c'est avant tout être disponible et présent pour les enfants. C'est savoir faire preuve d'écoute, de compréhension, d'attention, et puis de pouvoir donner de l'affection et de l'amour. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que d'autres valeurs viennent beaucoup plus tardivement, elles sont moins citées. L'accompagnement de l'enfant vers l'autonomie, l'autorité, le cadre, le père comme apport financier ou le père comme protection arrive vraiment enfin. Et c'est à mettre en opposition avec ce que disait le pape François, ce que disait le pape François dans une catéchèse, toujours en 2015, donc il y a 7 ans, 8 ans. Il disait la figure du père dans la famille, c'est un père présent, qu'il soit proche de son épouse, mais qu'il soit aussi proche de ses enfants dans leur croissance. C'est un père patient, et je le cite, « Tant de fois n'y a-t-il rien d'autre à faire qu'à attendre, prier, attendre avec patience, douceur et miséricorde. » Je pense que certains pères de famille s'y retrouveront. Voilà. Le pape dit aussi « Un bon père, c'est pardonner. » Un père aussi s'est corrigé avec fermeté et il s'est protégé. Donc voilà, si on peut brosser un portrait type du père de famille aujourd'hui au XXIe siècle. Mais quelle est la mission de ce père? Alors un des principaux rôles du père, c'est d'abord de poser des limites. C'est un rempart contre un amour trop fusionnel avec la mère. C'est aussi, le pape l'a dit, c'est de protéger. Et protéger, c'est être capable de dire non à son enfant, pour pas qu'il tombe dans une forme de surpuissance qui peut être angoissante pour l'enfant. C'est l'apprentissage de la responsabilité, en développant sa capacité à devenir acteur de sa vie. C'est aussi, le père doit avoir une autorité sur l'enfant, mais une autorité que l'enfant accepte, parce qu'elle est bienveillante, parce qu'elle est crédible et parce qu'elle est équitable. La mission aussi d'un père, c'est de préparer la séparation et l'envoi pour qu'à leur tour, ses enfants deviennent père et mère. Et enfin, je trouve ça très important, le père nomme. Il donne un nom. Nommer est vraiment une des fonctions les plus essentielles du père. Autant il est facile pour une mère qui a porté un enfant dans son sein pendant 9 mois de le faire reconnaître aux yeux de la société. Le père, qu'est-ce qu'il a? Il n'a que cette possibilité de donner le nom pour le faire reconnaître dans la société. Il donne son nom, et puis il donne aussi son prénom pour que l'enfant soit unique, que l'enfant comprenne qu'il est vraiment unique. Voilà. Et Saint Joseph, en assumant la paternité légale de Jésus, il y a 2000 ans, lui donna le nom révélé par l'ange. C'est Matthieu qui nous le dit dans le chapitre 1. « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voilà. Et pour être père, ben, il faut aussi être époux. Et pour être époux, il faut être homme. Et pour être homme, il faut être ou avoir été et être fils. Alors cela peut paraître évident, mais je crois que c'est mieux en le disant. Alors pour être père, il faut être un homme. Sois un homme, sois fort et courageux, disait Moïse à l'adresse de Josué. Et puis saint Paul, il ne cesse de le dire aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens, soyez des hommes, soyez forts, faites tout avec amour. Il dit aussi toujours aux Corinthiens, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Oui, l'homme, selon le cœur de Dieu, est celui qui demeure ferme dans la foi et dans la parole, mais pas que. Et je ne peux m'empêcher de vous évoquer le poème de Kipling, que certains connaissent sans doute, peut-être, qui est intitulé « Pour être un homme, mon fils ». Alors, je vais vous citer quelques extraits. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite, etc. Alors, tu seras un homme, mon fils. Oui, ce n'est pas tant les forces physiques que les qualités morales et humaines qui sont nécessaires pour être un homme aujourd'hui. À condition aussi d'être ferme dans la foi et dans la prière. Alors oui, pour être père, il faut être aussi fils. Alors je viens de mon père, je suis son fils. Je suis son fils, mais je ne suis pas mon père. Je suis un fils, mais je ne suis pas mon père. J'ai eu besoin de mon père, je l'ai regardé, il m'a aidé. et maintenant je suis un fils qui à mon tour devient père. Bon bref, ce que je veux dire par là, c'est dans l'acceptation de cette filiation père-fils que cette paternité s'épanouit avant de pouvoir transmettre encore. Devenir père, c'est s'inscrire soi-même dans cette généalogie en communiquant à son tour la vie. Sois aussi époux. Alors je vais reprendre ce que disait Saint Jean-Paul II dans son exhortation apostolique « Familiaris consortio », les tâches de la famille chrétienne en 1987, et je m'inspire d'ailleurs de ce qui avait été préparé par Sœur Claire Myriam pour la veillée du 24. Donc je cite Jean-Paul II « À l'intérieur de la communauté, de la communion qui est la communauté conjugale et familiale, l'homme est appelé à vivre son don et son rôle d'époux et de père. Il voit dans son épouse l'accomplissement du dessein de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul et il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Et Jean-Paul II continue, « L'amour conjugal authentique suppose et exige que l'homme ait un profond respect à l'égard de la dignité de la femme, de sa femme. Tu n'es pas son maître, écrit Saint Ambroise, mais son mari. Elle t'a été donnée pour femme et non pour esclave. Rends-lui les attentions qu'elle a pour toi et sois-lui en reconnaissant de son amour. » Voilà une belle définition du rôle d'époux vis-à-vis de son épouse. Et messieurs les maris, je vous invite à relire cette exhortation apostolique de Jean-Paul II. Voilà, oui, pour vivre la paternité, il faut être père, à la fois être père, fils, époux et homme. Mais c'est quand même pas facile aujourd'hui. Alors, y a-t-il crise de la paternité ? Entre une image qui s'effondre, un modèle qui s'use, un cliché du père autoritaire ou un féminisme revendicatif, entre les pères inconnus, les pères absents, les pères trop présents, les drames du divorce, le chômage qui frappe les foyers, l'image de la virilité totalement désuète, les affaires de violence conjugale et sexuelle, etc. Oui, la paternité est-elle vouée à disparaître de nos sociétés ? Et les pères dans tout cela, que deviennent-ils ? Alors pour pallier à cela, les sociologues vont essayer de justifier la place du père en lui définissant un rôle, ou en lui donnant le nom d'expert, le rôle du père, un expert en la paternité. Peut-on obtenir un certificat de paternité ou de maternité ? Peut-on parler de métier ? Un rôle, nous le savons, est interchangeable. Et pourquoi ce rôle de père ne pourrait-il pas être demain joué par une femme, voire un robot ? La PMA pour toutes, ainsi que la possibilité de donner le nom de la mère à l'enfant, rendent le père complètement inutile. Et puis demain, il ne s'agira plus d'accueillir un enfant, mais de fabriquer un produit sans défaut et sans père, et sans doute sans repère. Alors matériellement, la société, on pourrait l'imaginer, pourrait survivre sans les hommes, sans les pères. Mais je ne suis pas sûr que l'humanité, avec un grand H, pourrait y survivre. Alors comment s'en sortir ? Eh bien en s'en tournant vers Dieu, qui est source de paternité, et surtout avec Saint Joseph, qui est quand même un sacré modèle et qui nous montre la façon d'être un père chrétien. Alors je vais vous parler des quatre vertus cardinales de Saint Joseph. Je me suis inspiré d'un bibliste, un frère dominicain, le frère de Philippe Lefebvre, qui nous parle donc de ces quatre vertus. D'abord la fidélité. La fidélité telle que nous l'enseigne Joseph, Saint Joseph, c'est la capacité à changer ses plans pour suivre ceux de Dieu et lui être fidèle. Promise à Joseph, Marie s'avère enceinte. Qu'est-ce qui se passe ? Ça compromet le mariage. Et bien, au lieu de la répudier, Joseph la prend avec lui. C'est cette fidélité à l'inattendu, dans l'accueil, sous le regard de Dieu. Deuxième vertu, la justice. Joseph a su entendre le Seigneur lui dire « Ne crains pas de prendre Marie chez toi, comme femme. » Joseph est celui qui s'est écouté et qui se laisse porter par cette justice au sens de justesse de Dieu. Il garde Marie au lieu de la répudier. Troisième vertu, c'est l'humilité. C'est extraordinaire, Dieu a laissé l'éducation et la responsabilité de son propre fils à Joseph. Joseph, simple charpentier, même pas prophète, qui n'a fait aucun miracle, qui est pécheur, comme moi, comme lui, comme nous tous. Et en toute humilité, en simplicité, Joseph a pris sa responsabilité de père pour servir et non pour asservir. Et Joseph nous indique là où se trouve le véritable pouvoir, c'est de faire fructifier ce qui nous est confié. J'aime beaucoup le chant composé par Raoul Huitain, que nous chantons souvent ici au sanctuaire. C'est d'ailleurs dans le numéro 21 dans votre carnet de chant, Charpentier de Nazareth, dernière strophe, je cite. Et à la fin de son voyage sur terre, le charpentier s'est retiré sans bruit. De l'atelier, il a soufflé la lampe pour que la vraie lumière brille en nos vies. Belle image de cette humilité pour laisser Dieu se manifester en nous et lui laisser toute la place. Quatrième vertu, c'est la responsabilité. Joseph a pris ses responsabilités, alors que ce n'était pas dans ses projets. Il a pris Marie avec lui, il est parti en exil, il a fui Hérode, il a protégé sa famille. Puis il s'est installé dans une terre étrangère, il a reconstruit, il a exercé son métier. Être responsable, c'est faire passer celui dont on a la charge avant soi, de le protéger, de le faire grandir, sans chercher à le posséder. Voilà ces quatre vertus décrites par le frère Lefebvre, et je vais très rapidement les compléter par ce que nous dit le pape François dans sa dernière lettre, ou une de ses lettres apostoliques, qui a été publiée l'année dernière pour l'année de Saint-Joseph, avec un cœur de père. Le pape nous propose cette figure de Joseph. Joseph fut un père aimé. Ben oui, Joseph a non seulement été l'époux de Marie, mais aussi, surtout, il a été le père adoptif de Jésus. Il fut aimé de Jésus, comme tout enfant qui aime son papa, mais il fut aussi, il est toujours, aimé de l'Église et du peuple chrétien que nous sommes, en raison de son rôle dans l'histoire du salut. Deuxièmement, Joseph fut le père dans la tendresse. Joseph a vu Jésus grandir jour après jour, et Luc nous dit, il l'a vu grandir en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Troisièmement, Joseph fut un père dans l'obéissance. Obéissance à travers les quatre songes qu'il a entendus et qu'il a suivis pour garder Marie, protéger sa famille et puis s'établir à Nazareth. Quatrièmement, Joseph fut un père dans l'accueil. Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fit aux paroles de l'ange. Et seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est. N'ayons pas peur d'accueillir. Cinquièmement, Joseph fut un père, au courage créatif. Dieu a toujours réussi à aider à sauver Joseph, une situation bien difficile, nous le savons, mais parce que aussi Joseph n'est pas resté passif et résigné. Il a su avec courage se mettre en route et relever les manches, d'où l'expression « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors comme Saint Joseph, faisons confiance, mais surtout soyons courageux et ne baissons pas les bras devant la difficulté. Sixièmement, Joseph fut un père travailleur. Oui, Saint Joseph était charpentier. Il a travaillé honnêtement et il apprend à Jésus la valeur et la dignité et la joie du travail. Et enfin, Joseph fut un père dans l'ombre. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité, pour ne pas le retenir emprisonné, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ, et lui laisser toute la place. Et là aussi, je reprends le chant « Charpentier de Nazareth » et le refrain là, qui exprime très bien cette figure. « Loin des honneurs et du regard des hommes, caché dans l'atelier de Nazareth, Joseph le charpentier veille en silence sur l'enfant faisant ses premiers pas. » Le Père dans l'ombre. Donc voici, c'est cette figure à l'image de Saint Joseph, toujours d'actualité, dont nous pouvons nous inspirer et qui peuvent, et surtout qui nous doivent, nous aider à vivre notre paternité. Alors finalement, la paternité, c'est cette belle aventure. C'est aimer ceux qui nous sont confiés. Confiés comme des enfants, mais aussi comme des collaborateurs dans le travail, comme des amis, comme paroissiens, C'est aimer comme mes frères et sœurs dans une communauté, comme filleuls. C'est aimer ceux qui nous sont confiés comme le Père du ciel nous aime. Cela était valable hier, cela l'est aujourd'hui toujours et le sera encore demain. Et tant qu'il y aura l'amour, la paternité aura toute sa place. Oui, mais vous l'avez compris, il ne peut y avoir de paternité sans père et de père sans homme, au sens masculin du terme. Mais où sont les hommes aujourd'hui? Et j'en terminerai par là. Où sont les hommes? Telle est la question que chantait une chanteuse de ma génération, que peut-être les plus jeunes ou les plus anciens ne connaissaient pas. C'était une Lorraine. Elle s'appelle Patricia Cass. Et elle chante tout simplement « Où sont les hommes ?». Alors je ne pensais pas la citer aujourd'hui ici au sanctuaire, elle qui est plutôt écoutée dans les boîtes de nuit, mais les paroles en disent long. Et je vous cite quelques extraits. Où sont les hommes qui pardonnent et qui donnent? Où sont les hommes qui laissent éclater leur faiblesse au grand jour pour vivre un grand amour? Où sont les hommes qui disent haut et fort que l'amour n'est pas mort et qui espèrent encore? Qui pleurent dont les larmes demeurent le rempart à l'ultime souffrance? Où sont les hommes qui continuent de croire en celui que tous les autres condamnent? Où sont les hommes qui lèvent leurs yeux et leurs mains vers le ciel implorant le pardon? Où sont les hommes, quand ils parlent à Dieu, sont prêts à écouter un jour ce qu'il répond? Oui, où sont les hommes? Alors messieurs, à nous de pallier à toutes ces interrogations, car sans hommes véritables, la famille, la société, l'Église se trouvent dénaturées, fades et sans sel. Alors sur les paroles de cette chanson que je vous invite à relire, prions pour les hommes dont la société, la famille et l'Église aussi ont tant besoin. Prions pour tous ces hommes qui perdent leurs repères et qui ne trouvent plus leur place dans notre monde. Prions pour que la paternité de chacun puisse s'exprimer et s'épanouir à sa juste place. Amen.